Il est midi, nous retrouvons Olivia Gesbert.
Pour la grande table qui commencera dans quelques minutes avec le grand écrivain russe devenu français ou le grand écrivain français redevenu russe, Andrei Makine, qui sera notre premier invité. Il est midi sur France Culture. On commence par les titres avec vous, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. François Hollande fixe au gouvernement l'objectif de maintenir les activités ferroviaires d'Alstom à Belfort, dont le groupe a annoncé, c'était la semaine dernière, l'arrêt donc de ses activités. Précision tout à l'heure avec Hakim Kasmi. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, annonce lui l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de son prédécesseur, José Manuel Barroso, par la banque d'affaires Goldman Sachs, et il dit vouloir vérifier la conformité de cette embauche à la législation européenne. Commentaire avec Cécile de Kervas-Doué. Hillary Clinton, contrainte d'annuler un déplacement de campagne aujourd'hui et demain en Californie, la candidate démocrate souffre d'une pneumonie diagnostique révélée hier, après que Mme Clinton a été prise d'un malaise qui a écourté sa participation notamment aux cérémonies commémorant le 15e anniversaire des attentats du 11 septembre. Et puis on parlera de la suite du procès de l'ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, poursuivi pour fraude fiscale, blanchiment, pour son compte caché à l'étranger aussi. Jérôme Cahuzac qui tentait de s'expliquer ce matin sur ces contradictions. Nous aurons le compte-rendu de Florence Turm, l'invité du journal Éric Bocquet, qui est sénateur communiste du Nord. Voilà pour les titres, c'est à vous. Olivia Gesbert, La Grande Table.
Merci beaucoup. La Grande Table, première partie jusqu'à 12h30, c'est parti. Bonjour à tous. Une pensée tout d'abord pour Claude Jean-Philippe, décédé hier. Il avait animé le cinéma des cinéastes sur notre antenne et le ciné-club sur Antenne 2. Il s'était raconté à voix nue en 2012, du cinéphile au passeur d'images, une série d'entretiens à écouter sur franceculture.fr. Comme un lundi, nous avons choisi de commencer ensemble cette nouvelle semaine de la grande table entre neige et taïga avec un roman russe, une traque qui s'achève dans l'exil et un retour à la nature qui laisse entrevoir l'absurdité de nos vies. L'écrivain franco-russe Andrei Makine est notre premier invité exaltant. Dans la deuxième partie de l'émission, à partir de 12h55, notre grand témoin de la semaine est une femme, l'historienne Mona Ozouf, à qui la revue Critique consacre son numéro de rentrée, sera avec nous. Retour sur son parcours et une pensée intemporelle, révolutionnaire. La grande table se tweet, se like et se télécharge. À vous de jouer dès maintenant.
La grande table. Olivia Gesbert.
Au début des années 50, sous Staline, Pavel Gartsev, soldat rescapé de la Grande Guerre patriotique, est envoyé en Sibérie orientale pour préparer une possible troisième guerre mondiale avec quatre autres hommes. Il va devoir quitter l'entraînement pour traquer dans la taïga un fugitif échappé du goulag. Une chasse à l'homme qui en dit long sur la nature humaine, ses bassesses, ses tyrannies, et le guidera jusqu'à l'archipel des Chantars. L'archipel d'une autre vie est un roman et il vient de paraître au Seuil. Et vous en êtes l'auteur. Bonjour Andrei Makine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous rentrez de Sibérie ?
Oui, j'ai été il y a une semaine. Oui.
Un pied ici, un pied là-bas, toujours ?
Je suis assez enraciné dans la vie française. Et d'ailleurs, oui, ce passage à la langue française le prouve.
Mais cette fois-ci, votre imaginaire est parti en Sibérie avec vous. Il reviendra peut-être en France la prochaine fois.
Oui. Comment disait d'ailleurs votre compatriote Danton, on ne peut pas emporter la patrie sur la semelle de ses chaussures. Oui. Donc elle reste toujours en vous.
Andrei Makine, votre archipel à vous, c'est l'écriture ? Votre archipel d'une autre vie.
Non, c'est la vie des autres aussi, la vie des autres, la quête de la vérité et surtout l'hypothèse de la possibilité d'une autre vie que je développe dans ce roman, oui.
Mais vous avez pour ça un refuge, pour y réfléchir à toutes ces questions, à cette autre vie qui pourrait exister, d'abord en chacun de nous, puis à l'extérieur. Vous vous réfugiez quelque part parfois pour y penser.
Sans doute, oui, en Russie, entre autres. En France, il y a quand même des endroits aussi très reculés qui me rappellent l'immensité de la Russie, ne serait-ce que la forêt landaise. C'est peut-être le seul endroit, par son infini, qui peut rappeler, oui, cette étendue sibérienne, même si le climat est complètement différent.
Alors la Sibérie, les Landes, deux endroits où vous parvenez apparemment à vous mettre à l'abri du brouhaha du monde, Andrei Makine. Dans l'archipel d'une autre vie, il est question d'un homme qui va se couper du monde pour fuir d'abord, pour vivre tout simplement ensuite. Vous l'avez connu cet homme, vous avez rencontré des hommes comme lui qui ont fait le choix de s'extraire de la société, d'être heureux avec si peu, comme vous l'écrivez.
Oui, mais pour être tout à fait précis, je voudrais commencer par toute petite rectification dans ce que vous avez dit. Vous avez dit « les Russes préparent la Troisième Guerre mondiale ». Non, ils se préparent.
Ils se préparent
la Troisième. C'est un peu différent. Parce que, voyez-vous, ils ne sont pas dans le rôle actif en ce moment-là. C'est 1952. 1952, ça nous paraît un temps parfaitement anachronique, archaïque, mais c'est 7 ans après Hiroshima et Nagasaki dont le crime n'a pas même été reconnu par le président Obama, entre nous soit dit. 7 ans seulement. Donc les Russes étaient aux aguets. Ils savaient très bien, les documents déclassifiés le prouvent, que les Américains pouvaient les bombarder à l'arme atomique, comme ils le promettent maintenant à l'Iran. Et cet homme qui est envoyé au fin fond de la Sibérie, il ne vise que ce but-là, se préparer à l'éventualité de cette catastrophe nucléaire. Donc, on le met dans un abri nucléaire où il passe une nuit, il manque de laisser sa peau dans ce tombeau.
C'est un véritable tombeau,
c'est un cercueil, en quelque sorte. Mais grâce à ce séjour, peut-être, il commence à réfléchir différemment. Il comprend la fragilité de sa propre existence, mais aussi la fragilité d'autrui.
Alors si je reviens à ma question, est-ce que vous avez connu des hommes comme lui ?
Beaucoup. J'ai vécu une période très dure, sans doute, vous savez, c'est la Russie soviétique, la dictature était toujours là, mais une période bénie où les gens commençaient à parler. Et leur confidence, la confidence des anciens du goulag, n'était pas encore formatée par un discours dissident, par un discours idéologique. Un discours dissident, je n'ai rien contre cela. Mais c'était quand même déjà quelque chose de bien configuré, intellectuellement. Eux, ils avouaient dans la spontanéité de ce qu'ils ont vécu. Et en même temps, ils avaient déjà ce premier relâchement presque corporel. Ils ne souffraient plus. Cela est devenu trop ancien. Leurs souffrances, leurs blessures sont devenues trop anciennes. On pouvait l'avouer. Et donc, j'ai vécu cette petite période où les confidences étaient vraies, justes, incohérentes, illogiques. Qui nous faisait dresser nos cheveux sur la tête, mais avait le poids de la vérité.
Mais ce Pavel, il a vraiment existé ?
Vous voulez tout savoir. Oui, il a vraiment existé, je vous l'avoue.
Et vous l'avez rencontré ? Lui, vous l'avez rencontré ?
Tout à fait. Oui.
C'est vrai ?
Oui.
À quelle époque ?
À l'âge de 14 ans, comme ça se passe dans le roman.
C'est-à-dire que le jeune homme qui rencontre effectivement Pavel
au
début du roman,
il me ressemble beaucoup. Mais ce n'est pas, bien sûr, seulement cet enfant-là que j'ai été. J'ai été plein d'autres choses aussi.
On va se le raconter ensemble jusqu'à midi et demi, tant que faire se peut. Je sais que je veux savoir beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Il faut garder aussi sa part de mystère, Andrei Makine. À cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin de ceux qui avaient réussi à atteindre la mer des Chantars. Pour toutes les autres manières d'apparaître ici-bas, exister allait me suffire. Votre roman, Andrei Makine, s'ouvre sur cette distinction à laquelle, à vrai dire, j'avais jamais vraiment réfléchi entre vivre et exister. Pour moi, les deux mots s'employaient assez indifféremment, comme entendre ou écouter. Et c'est un peu, finalement, la même distinction qu'on pourrait opérer. Vivre et exister, votre personnage va tenter de vivre et d'arrêter justement de simplement exister. Hein. Qu'est-ce que vous mettez-vous derrière ces mots ?
Pour peut-être être très clair, exister, c'est avant tout exister dans nos deux identités principales, c'est-à-dire notre identité corporelle, dans cette machine désirante qu'est notre corps, être parfois subjugué complètement à nos instincts. Mais ces instincts, ils sont formatés par la société. Et donc c'est notre seconde identité, l'identité sociale, notre statut social. L'homme existe dans ces deux identités et souvent il pense que c'est suffisant, qu'il est parfaitement épuisé, que son être est épuisé. Avoir déjà un statut social, c'est tellement difficile dans nos vies hâtives et avides que chaque homme se dit, mais écoutez, le succès est là, j'ai atteint le sommet de l'ascension sociale, pourquoi chercher quelque chose d'autre ? Et donc, ces deux identités sont liées. Mais moi, je suppose qu'il y a une autre identité, et cette identité se résume à ce verbe « vivre dans la plénitude de son sens ».
Dans le regard de l'autre, on existe. Dans sa propre intériorité, dans son corps, on peut essayer de vivre, dans sa tête.
Ça dépend du regard d'autrui. Mmh. Si c'est un regard amoureux, vous commencez à vivre pleinement. Et vous, vous élevez à cette troisième identité qui est presque surhumaine. J'allais dire théandrique, divino-humaine. Oui, c'est un terme que les philosophes russes emploient souvent, l'essence théandrique de l'homme. C'est là, c'est ces rares instants où notre moi mortel, avec notre finitude, notre incomplétude, tout à coup, il perce un peu au-delà. Nous sommes des êtres de chair, déchirés par nos petites futilités névrotiques. Le diktat social est terrible. Mais de temps en temps, par des moments de grâce, nous parvenons à nous extraire de ces deux identités.
On entend bien, André Makine, que vous êtes quelqu'un qui n'est jamais arrivé, mais est-ce que vous avez, vous, le sentiment de commencer à vivre, justement? Alors peut-être dans le regard de vos lecteurs, dans le regard de ceux qui vous aiment, à travers votre écriture?
Dans l'écriture, oui, dans l'écriture. Transformer ce qui se passe en ce qui subsiste. Qui disait ça, Paul Valéry? C'est très juste. Voyez-vous, il y a cette hâte vitale qui est en nous, ce que j'appelle ce pantin de chiffon en nous, ce caillot, ce noyau vital et finalement existentiel. Et comment s'en débarrasser? Comment l'extirper et pouvoir se dire, mais attendez, cet instant qui passe, je pourrais l'immortaliser. Dante l'a réussi. C'est pour ça que 7 siècles après, on pense encore à Béatrice. Béatrice passe dans les rues de Florence et elle nous paraît plus réelle, plus tangible que les hordes de touristes qui occupent le Ponte Vecchio. Vous voyez, pour nous, c'est une présence beaucoup plus riche que ces ombres humaines qui passent quotidiennement dans les rues de Florence.
Louskas, le tyran un peu veul, Boutov, Ratinsky, le mouchard, l'arriviste, Vassine, l'altruiste et Pavel Gartsev. J'ai du mal à trouver des qualificatifs pour les 5 hommes qui se déploient, qui
vous l'avez réussi.
Qui entrent.
Non, Pavel,
non, il m'en manque
deux. Il y a 5 tempéraments.
Il me manque Boutov, ouais. Et il me manque Pavel, justement, qui est le plus compliqué, puisqu'il est celui qui évolue le plus au fil du roman.
Il est plus fluctuant. Il a une formation de philosophe, donc peut-être ceci explique cela. Donc il se regarde aussi, il se juge beaucoup plus que les autres qui sont engoncés justement dans leur statut social, dans cette seconde identité qui leur suffit. Et encore, ils pensent qu'ils n'ont pas encore atteint les sommets, ce qui explique leur hargne, leur avidité vitale. Vassine est revenu de tout, oui, il a perdu sa femme et son enfant, donc c'est un personnage aussi très philosophique, mais cette philosophie primaire, cette philosophie tripale, viscérale. Tandis que Gartsev, il réfléchit, il comprend que cette raison résonante, elle est parfois parfaitement désarmée devant la réalité des choses. C'est un citadin, il se retrouve tout à coup au fin fond de la taïga, dans un non pas dans un cadre naturel, mais face à un cosmos qui n'a rien à faire de la présence humaine. La nature, encore, on l'a apprivoisée, oui, c'est une nature rousseauiste, c'est des bosquets, c'est des petits ruisseaux. C'est comme ça que l'Européen imagine la nature. Tandis que là, c'est une nature indifférente à la présence humaine. Et l'homme n'est même pas invité dans cette nature. Ici, il est le maître de la nature. Là-bas, il n'est même pas invité. C'est juste une corpuscule qui passe comme ça et qui disparaît.
Alors, qu'incarnent ces 5 hommes, 5 facettes de la nature humaine, cette fois, justement, pour vous?
Ces 5 fragments de la Russie, 5 fragments de l'histoire, 5 fragments, 5 conceptions de l'homme face à la tyrannie, et 5 possibilité de se dépêtrer d'une situation qui leur paraît inextricable, et chacun parvient quand même parfois avec beaucoup de lâcheté de s'en extirper. Je pense que chacun, qu'il soit sanguin ou colérique ou flegmatique, trouve à éclairer une des facettes de cette existence absurde, on pourrait l'appeler, et en même temps plein de sens historique. Comme je vous ai dit, ils ne préparent pas la Troisième Guerre mondiale, ils se préparent. Ce sont des victimes, peut-être, éventuelles de la Troisième Guerre mondiale. Quand vous voyez aujourd'hui les bases militaires américaines qui s'installent tout au long de la frontière russe, on se dit, mais on est en pleine actualité. Et ces bases sont dotées des armes nucléaires, il ne faut pas l'oublier. Moscou est maintenant à 1 minute et demie d'un bombardement atomique. Les Russes ne l'ont pas demandé, ils ne l'ont pas cherché. Et pourtant, c'est leur situation d'aujourd'hui. Quand vous voyez les avions allemands avec la même croix noire sur les ailes qui volent à 100 mètres de la frontière russe, leur mémoire ancestrale se réveille et les mémoires toutes proches, elles se disent « Mais attendez, il y a 70 ans, on a vu déjà ça, c'était des nazis. Pourquoi faire voler, pourquoi l'Europe fait voler ces avions avec la croix, non pas la croix gammée, heureusement, mais ça, peut-être ça viendra un jour, mais avec la croix noire, tout près de la frontière russe, qui ne menace pas l'Allemagne, qui ne menace pas l'Amérique. »
On va revenir à la situation présente, mais je voudrais juste rester avec vous encore un peu sur le roman André Makin. Ils sont victimes, vous dites, de cet avenir probable, cette troisième guerre mondiale qui pourrait arriver et à laquelle ils se préparent, mais ils sont d'abord victimes, voire rescapés du passé quand même. Tous ont des vies extrêmement chamboulées, ils ont perdu à peu près tous leurs proches. C'est des hommes seuls, isolés, qui ont réussi à survivre au drame du passé.
Oui, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre voix, c'est que vous n'avez pas mis de guillemets, ils sont invisibles, mais vous aurez pu les mettre en prononçant la Grande Guerre Patriotique. D'habitude, les Français mettent en guillemets, en ricanant un peu, oui, c'est pas la Grande Guerre Patriotique. Si, pour les Russes, c'était la Grande Guerre Patriotique, où nous avons perdu 26 millions. Donc ça compte. Nous ne mettons jamais votre résistance, entre guillemets. Non, pour nous, c'est quelque chose de sacré. La résistance des Français face aux nazis. Nous ne mettons jamais le mot Verdun, entre guillemets. Pour nous, ce sont les milliers de vies sacrifiées. Malheureusement, à l'écrit, les Français ont cette tendance à mettre les guillemets. Donc, ce sont des victimes, dites-vous. Mais en même temps, cette situation extrême dans laquelle ils évoluent leur permet une révélation. Tout à coup, ils entrevoient, chacun à sa façon, cette nouvelle naissance, cette renaissance, cette refonte totale de leur être. Ce n'est pas seulement d'apprivoiser la taïga, c'est déjà très difficile, vous voyez, de survivre dans la taïga sans avoir des armes, sans avoir la méthode de survie dans cette forêt immense, mais c'est une véritable nouvelle vie. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent, mais la vie que j'ai vécue avant, finalement c'était une forme de mort, faite de peur, de hargne, de jalousie, de rivalité stupide, de ces futilités névrotiques, ils traversent cette vie pour voir quelque chose de lumineux, pour voir l'amour aussi, l'amour de celui qui marche à leur côté.
Et dont ils ne sont jamais, et dont on n'est pas vraiment sorti, de cette bouffonnerie du monde, comme vous l'écrivez, où les hommes vivent depuis toujours en se haïssant. Ils en ressortent, mais pas indemnes, et c'est ce qu'incarne ce pantin de chiffon que vous avez déjà évoqué. Vous le racontez dans votre livre, je vous cite, sous les débris du ciment, c'est Pavel qui est en train de raconter ce qui est arrivé à ses parents. Je trouvais une poupée de chiffon, le pantin que j'avais souvent vu dans les mains de la petite Sima, fille d'un terrassier, le premier frémissement chez moi d'un amour enfantin. La vue de cette loque de tissu me donna la sensation de l'extrême fragilité de mon propre corps. Le pantin s'incrusta en moi, réplique dans ange gardien qui allait me conseiller désormais la prudence, le compromis, la résignation. Il va presque jamais le quitter tout au long du récit, ce pantin de chiffon qui l'habite. On a tous au fond de nous un pantin qui nous appelle au compromis, voire à la résignation dans nos vies.
Mais Tchekhov l'a formulé très bien. Il l'a dit, toute ma vie, j'ai lutté contre l'esclave qui m'habitait, contre l'esclave. J'ai essayé de chasser cet esclave. Et Camus, finalement, il a répété la même chose. Il disait, mais j'ai vécu toute ma vie dans le mensonge. Maintenant, il le disait à 59, juste avant sa mort. Maintenant, j'essaierai de vivre dans la vérité. Donc, voyez-vous, ce sentiment, chez les gens sensibles et chez les penseurs éminents que sont Tchekhov ou Camus, est très prégnant. Il y a quelque chose en nous qui nous guide, qui est très utile, parce que ça nous conseille d'être prudent. C'est très important dans la vie d'être prudent, oui. D'être parfois un peu lâche, parfois d'être conciliant. Mais en même temps, si on parvient à nous extraire de tout cela, on découvre cette nouvelle vie.
Apprendre à se soumettre et puis pouvoir aussi sortir de ça, effectivement, pour trouver le courage de résister contre certaines choses et parfois aussi contre soi-même. André Makin est notre invité sur France Culture pour son roman qui vient de paraître aux éditions du Seuil, L'archipel d'une autre vie. Il est midi 20.
Sunday morning, skeleton dream. Oh, nothing is for free. In the window, a candle will maybe you. Across the sky, a jittery TV. Glowing white like fire. Nothing is for free.
Perte de son fils, ce disque, cet album hommage et travail de deuil pour l'Australien Nick Cave and the Bad Seeds. L'album s'appelle Skeleton Tree et il vient de paraître dans les bacs. Vous aimez l'Australie, André Makin, vous me disiez.
Oui, j'aime beaucoup, beaucoup ce pays qui est un continent aussi. À la fois un pays et un continent.
Et oui. Pourquoi vous l'aimez?
Peut-être pour ne pas me sentir maître de la nature, justement. Là, on se sent très humble face à ces énormes espaces. Comme je vous ai dit, on retrouve parfois, même en France, on peut retrouver ça, mais en Russie, en Amérique, que vous, vous aimez, et en Australie aussi.
Glowing white like fire. And I call out, I call out.
André Makin, le français n'est pas votre langue maternelle, mais votre langue grand-maternelle, comme en témoigne le Testament français, votre roman d'inspiration autobiographique paru il y a 20 ans déjà, où le narrateur relate son enfance russe, l'histoire de sa grand-mère française, les livres et encore les livres qui l'ont marqué. Cette langue, vous l'aimez au point de continuer à écrire avec, même quand vous parlez de Russie, ce qui est quand même assez étonnant. Comment vous arrivez à inscrire un roman dans cette Russie qui vous manquait au point d'en refaire un livre, mais toujours en français?
Oui, mais vous dites que ce n'est pas votre langue maternelle. Mais Olivia, quand vous aviez 3 mois, quelle langue parliez-vous? Ou 6 mois? Aucune, n'est-ce pas? Vous étiez averbal. Vous étiez un enfant, un petit enfant qui voyait déjà l'univers. Mais vous aviez peut-être même la perception de l'univers beaucoup plus riche que maintenant. Maintenant, il y a des clichés, vous voyez à travers les clichés d'une femme adulte. Mais quand vous étiez une toute petite bambina, oui, vous voyez de façon beaucoup plus riche. Et vous n'aviez pas de langue. Et puis vous l'avez apprise, cette langue, n'est-ce pas, ce français. Mais moi, c'est la même chose, mais je l'ai apprise dans d'autres circonstances, dans les circonstances qui n'étaient pas peut-être très... favorable, n'est-ce pas, à l'apprentissage classique, et pourtant, je l'ai apprise grâce au livre, grâce à cette vieille dame qui me l'apprenait en me faisant lire des classiques. Et quand vous ouvrez la correspondance de Pouchkine, la moitié de cette correspondance est en français. Donc mon cas n'a rien de particulier. Les Russes adoraient cette langue, ils le parlaient couramment, et d'ailleurs, le début de Guerre et Paix était rédigé en français, comme vous le savez.
André Makin, cette France qui aime tant se rabaisser, cette France qu'on oublie d'aimer, comme vous l'avez écrit, cette mise en garde lancée il y a 10 ans, on a l'impression qu'elle n'a pas servi à grand-chose. Hein. Jamais l'identité française n'a semblé aussi malheureuse, hein, pour paraphraser Alain Finkielkraut. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui?
Ce qui m'inquiète, c'est l'intelligence qui s'est développée, mais inquiète au bon sens du terme, qui s'est développée dans l'émission qui nous a précédés, le tour du monde des idées. Magnifique. Ils ont décortiqué le politiquement correct américain. Et c'est une peste, c'est le choléra, c'est ce politiquement correct. Et qu'ils s'emparent d'une nation aussi raisonneuse, aussi intelligente, aussi douée dans la controverse intellectuelle qu'est la France, ça, à mon avis, c'est le plus grand danger.
Mais en quoi on est victime ou emprisonné dans ce prêt-à-penser américain? En quoi il nous a contaminés pour vous?
Mais oui, mais attendez. Par exemple, Pavel Gartz, dans mon roman, est lancé à la poursuite d'un ennemi du peuple. Mais il est très facile de devenir un ennemi du peuple aujourd'hui en France. Il suffit de vous traiter de facho. Ah ben, fini! Votre réputation est détruite. De raciste, n'en parlons pas. D'islamophobe. Exécution sommaire. Voyez-vous comme c'est simple, finalement, de mettre des étiquettes au lieu de réfléchir, d'analyser, d'avoir cette controverse, de se battre non pas à l'aide des anathèmes, mais à l'aide des arguments intellectuels et intelligibles.
Et ça, c'est ce qui se fait en Russie ?
En Russie, quand vous ouvrez la presse, vous voyez le blanc et le noir. Bien sûr, il y a une pensée dominante, je ne le cache pas, certes, mais il y a quand même cette férocité qui pousse les Russes à réfléchir. Après tant d'années de diktat, la presse libre, c'était notre rêve. Mais quand on ouvre les journaux français, si vous tombez sur le mot Russie, vous êtes mais complètement assuré que ça sera un tombereau d'injures, tout est mauvais, tout est noir, Poutine c'est un monstre. Poutine c'est un monstre, donc il est inanalysable. On ne peut pas l'analyser. Si c'est un monstre, s'il a des cornes sur la tête, on peut pas le blâmer. Vous nous privez de la possibilité de critiquer Poutine, de critiquer, il le faut, critiquer la Russie. Ça qui est terrible.
Alors, vous aviez dit, vous aviez loué son pragmatisme il y a 3 ans, dénoncé aussi l'hostilité de l'Occident à son égard, et vous avez du mal à comprendre, et peut-être à raison, que nous le jugions si imprévisible, brutal, ce côté tout en muscles, ses provocations. Ça, c'est quelque chose que les Français perçoivent de lui à distance, mais alors à tort pour vous ?
C'est une opinion formatée. Mmh. C'est une opinion formatée. Il se débat dans 1000 difficultés dans cet immense pays qui est entouré, comme je vous le rappel, de bases américaines. Et n'oubliez pas que le budget militaire des États-Unis, c'est 10 fois le budget militaire de la Russie. Les Américains ont, dans le monde, 750 bases. Combien de bases militaires ont les Russes dans le monde? Pouvez-vous me répondre à cette question? 2. C'est très simple.
Avec,
oui, 2. Donc, vous voyez la différence. Les Russes n'envoient pas leurs militaires à la frontière mexicaine. Donc,
ils bombardent en Syrie, aujourd'hui, quand même.
Ils bombardent pour que les choses reviennent au statu quo. C'est la grande différence. Et le statu quo, c'est la Syrie, je l'ai visité 1 an avant la guerre, qui vivait et les gens ne mouraient pas. C'était l'essentiel.
André Makine, dans L'archipel d'une autre vie, forme de dénonciation aussi de tous les totalitarismes jusqu'aux excès du libéralisme, vous écrivez « Eux qui avaient survécu aux persécutions sous Staline, ils n'auraient jamais pensé que le pire arriverait à présent à notre époque libérale ». Mais il nous reste une petite minute, je voulais terminer avec ce petit roman à la française, comme vous l'aviez qualifié un jour dans la vie d'un homme inconnu, une fiction très parisienne, nombriliste, entre
mon narrateur l'a qualifié,
et oui,
mon narrateur.
Sous votre plume, entre vacuité et qui vous déprime. Est-ce que cette rentrée littéraire vous laisse un peu plus joyeux, un peu plus heureux? Est-ce qu'elle n'est pas tombée, je trouve, cette fois, dans ce travers? On a l'impression que la fiction, la grande, parfois, semble avoir repris sa place. Vous avez lu des bonnes choses dans cette rentrée?
Je suis très lent, mais je le lirai, je le découvrirai, je vous le promets.
Bon, et alors ce fauteuil d'académicien, vous êtes assis déjà dedans ou pas encore?
L'élection se fera au mois de décembre,
en
si
décembre,
tout se passe bien. Oui.
Bon, on espère qu'il sera confortable, que vous y serez bien.
Espérons-le.
Merci beaucoup André Makine d'être venu passer cette longue demi-heure avec nous et belle demi-heure. Je rappelle le titre de votre roman qui vient de paraître aux éditions du Seuil, L'archipel d'une autre vie. On vous souhaite de la trouver, cette autre vie, prochainement.
Également, merci.